Souvenirs de famille, Louis Powells, évoqué par sa fille Marie-Claire Powells.
Bien, si je devais qualifier mon père, je dirais l'exigence. Pour lui, pour moi, pour les autres.
Louis Powells fut romancier, essayiste, journaliste, amateur de peinture et membre de l'Académie des Beaux-Arts, où il fut élu en 1985. Il avait déjà publié plusieurs romans lorsque, coup de tonnerre en 1960, paraît son célèbre « Matin des magiciens » coécrit avec son compère Jacques Bergier. Les moins jeunes s'en souviennent et les plus jeunes continuent à découvrir ce livre et la revue Planète, créée immédiatement après. Ce succès a tendance néanmoins à occulter celui des autres ouvrages de Powells. L'un de ses premiers romans, « Saint quelqu'un », salué comme un chef-d'œuvre, son essai « Monsieur Gourgieff », qui faillit le ranger parmi les prosélytes, et sa fameuse « Lettre ouverte aux gens heureux », qui le classa définitivement parmi les penseurs à contre-courant du discours ambiant. À contre-courant, Powells le restera toute sa carrière, et notamment lorsqu'il créera Le Figaro Magazine en 1978 et Madame Figaro. Lorsque le tirage du Figaro Magazine dépassa le million d'exemplaires par semaine, ce qui ne s'était pas vu depuis le François de Pierre Lazareff, Powells commença à ressentir le tiraillement de toute sa vie, rester dans l'information comme journaliste ou se consacrer à l'écriture comme romancier. S'il choisit la première voie, il revint néanmoins à l'écriture romanesque avec son ultime roman « Les orphelins » dans les dernières années de sa vie. Il était né en 1920 et il est décédé en 1997. On oublie aussi que Louis Powells adapta plusieurs pièces pour la télévision, dont « Faust » avec François Chaumette et « Les jeunes filles » de Monterland avec Jean Piat, en complicité avec son ami le réalisateur Lazare Iglesis, et il adapta également pour le théâtre « Les chroniques martiennes » de Ray Bradbury. Restez en compagnie de Louis Powells, évoqué maintenant par quelques souvenirs de sa fille Marie-Claire.
Exigence professionnelle, bien sûr, exigence d'autant plus grande que j'étais sa fille, et exigence avec moi dans la vie familiale, parce qu'il avait un rapport particulier avec moi et il voulait le meilleur, et que je sois la meilleure. À l'école, il n'était jamais content quand je ramenais un bon carnet. Il disait « Oui, mais t'aurais pu être première, t'es seconde, ok, mais bon, ça serait mieux que tu sois première. » Terrible avec moi, terrible. D'ailleurs, à tel point que les gens de Madame Figaro s'en souviennent encore, parce que tous les jeudis matin, il appelait, et il me disait « ce truc est nul, cette mode est importable ». Et moi, je pleurais tous les jeudis matins. Un aspect méconnu de lui, c'est qu'il s'intéressait beaucoup à l'art. Il était amateur d'art, il a collectionné pas mal de tableaux de la période fantastique. Il avait des amis artistes qui lui ont donné des choses. Et il a toujours, dans ses journaux, parlé d'art. Beaucoup. Il était rédacteur en chef de Art. Il a lancé des cahiers sur les grandes collections du monde entier, sur les collectionneurs, et à propos des grandes expositions, un dossier. D'ailleurs, le magazine continue. L'une de ses passions totalement inconnues, c'était la pêche. Il allait pêcher au nord de l'Angleterre, en tout cas, tous les ans, dans une île, chez le mari des Tuchefeuillères, qui adorait ça. Et alors, ils allaient pêcher. Il allait aussi, près de Versailles, je crois, sur des étangs, et il allait pêcher. Il aimait ça, il aimait le silence de la pêche, la concentration. Oui, le silence et la concentration, je pense. Et le plaisir de voir tout à coup sa ligne frétiller, c'est un grand plaisir. Je l'ai parfois accompagné. Il avait une passion pour les maisons. Donc, il adorait visiter des maisons à vendre. Il voulait acheter des maisons partout. Et dès qu'il était quelque part, un endroit qui lui plaisait, eh bien, il regardait ce qu'il y avait à vendre. C'est pas pour ça qu'il l'aurait acheté. Mais... Et puis, il aimait la décoration des maisons, les objets, les meubles. Et il adorait les fleurs. Il aimait bien tripoter les roses dans son jardin. Ça l'intéressait beaucoup.
Louis Powells, extrait de son journal intitulé « Un jour, je me souviendrai de tout », le dimanche 19 mars 1972.
Il y a un très beau mot d'Oscar Wilde qui dit « Les plaisirs simples, c'est le refuge ultime des âmes compliquées ». Je ne sais pas si j'ai une âme compliquée, mais j'aime beaucoup les plaisirs simples. J'ai débarrassé ma vie des plaisirs sophistiqués, qui sont les sorties, les mondanités, les dîners, etc. Et mes plaisirs, c'est la pêche en Norvège, sur une toute petite île, dans une cabane en bois. C'est faire mon jardin, C'est aller me baigner le matin tôt dans mon petit bassin dans le jardin. C'est voir mes petits-enfants. C'est dîner avec mes enfants. Alors vous voyez, c'est très très simple. J'ai progressé dans le goût des plaisirs simples. J'ai progressé en devenant jardinier. Ça a été très important pour moi. Et je me suis aperçu, par exemple, que le jardinage, c'est exactement comme l'écriture. Ça exige beaucoup de patience et il faut couper tout le temps. Donc oui, je pense que je suis meilleur que je n'étais. Je pense que je regarde mieux les autres. J'ai aussi une beaucoup plus grande ambition sociale. Bon, tout ça, ce sont des progrès de sagesse, quoi. De petits progrès, en tout cas.
Il aimait beaucoup les enfants, il était très attendri par les enfants. Il disait de ma fille que c'était un cerveau à pattes, parce qu'elle était futée comme tout et toute petite. Il était très touché, mais il ne fallait pas non plus que les enfants le dérangent, voilà, si on peut dire. Et il n'aimait pas les vacances. Ça, c'est assez amusant parce qu'en vacances, on le débarquait, on avait fait du bateau avec lui en Grèce et on le débarquait sous un arbre. Il lisait, il écrivait. Et il n'a jamais aimé les vacances. Je n'ai pas de souvenir de vacances avec lui, sauf cette fois en Grèce où il a continué à travailler.
Extrait du journal « Un jour, je me souviendrai de tout » sans date.
Je promène la photo de ma fille Marie-Claire, dont je ne suis pas peu fier. Ce visage-là est vraiment le visage de ma fille. Et je voudrais qu'elle ressemble en tout point à cette image. Cela dépend de moi. Rien n'est plus important. Au fond, à mesure qu'on use de la vie, plus vite que la vie vous use, on s'aperçoit que les enfants sont l'essentiel, qu'ils dépendent de notre intelligence et de notre habileté, que leur destin soit ceci ou cela, qu'ils soient clairs ou estompés, sportifs ou malsains, francs ou ambigus, profonds ou tordus. Quel prix cela donne à notre existence, à nos propres problèmes, et quelle évidente orientation. Nous pouvons faire ce que nous voulons, à condition que. Et c'est à cette condition que je ne cesse de songer. Depuis des mois, je me sens devenir père. La mer bat sous mes fenêtres. Il m'arrive de monter travailler bien avant le jour, à des heures incongrues de marée, heures mat où mon père se mettait à l'établi. Je cherche les feux dansants du chalutier de mon fils marin-pêcheur, sa route pour la haute mer et l'Anjouerie. Il voit la seule lumière fixe, dans le noir de la grève, mes fenêtres éclairées.
C'était un homme réservé, froid, qu'on pouvait trouver froid et qui était très capable d'être très froid, parce que c'est un homme du Nord, grand blond comme ça, avec la peau très pâle et un peu distant, et beaucoup de chaleur à l'intérieur. Il a été fait citoyen d'honneur de la ville de Gand, qui était la ville de sa famille. Il y allait le plus souvent possible, il était ami avec le père de l'actuel roi, qui lui avait d'ailleurs donné un chien. Il allait passer des week-ends à Laeken.
Louis Powells, discours prononcé à Gand devant les échevins de la ville en mai 1986, à l'occasion de son élection comme citoyen d'honneur.
L'honneur que vous m'accordez touche en moi des points très sensibles, et je suis tenté de vous en remercier plutôt en homme intime qu'en homme public. Derrière l'écrivain, derrière l'animateur de presse, derrière le polémiste politique qui ont une certaine réputation à Paris, et derrière l'académicien, il y a un homme qui porte un nom typiquement flamand, qui vient d'une famille paternelle enracinée ici depuis des siècles. Il y a un homme qui n'a pas accompli ici son existence, alors que ses origines l'y destinaient, qui ne parle pas votre langue, alors que l'alphabet de cette langue est déposé dans ses gènes. Et cet homme découvre tout à coup les calculs de sa destinée. Il se voit aujourd'hui reconduit, avec solennité, vers son berceau. Gand est en effet mon berceau. Né d'un père gantois, j'ai vécu à Gand mes 18 premiers mois, et j'eusse dû y rester si des cœurs qui ne battent plus maintenant ne s'étaient entre-déchirés. Nous avons sans doute les souvenirs plus longs que notre mémoire. Ces souvenirs ne remontent pas jusqu'à notre conscience, mais ils existent, comme les étoiles en plein jour que nous ne voyons pas. L'air, la rumeur, l'odeur de Gand et quelque chose de l'âme de cette ville ont imprégné ma chair et mon esprit qui se formaient. J'étais un bébé de la lignée flamande. Et voici que de ce minuscule citoyen dans ces langes, et qui se trouva très tôt exilé, vous faites aujourd'hui un citoyen d'honneur. Étrangement, la boucle se trouve bouclée. Je n'ai pas connu mon père, soit qu'il ne voulût pas, soit que, plus tard, je ne voulus pas. Mais vous me permettrez d'évoquer la mémoire de mon oncle Gaston Powels, que notre ami Jean Écoute a connu. C'est par lui que j'ai gardé le contact avec mes origines. Il m'a cherché et m'a retrouvé adolescent. Et il m'a fait reprendre, de temps en temps, le chemin de la Flandre. C'était un peintre, disciple de James Sansor. Pendant 30 ans, il fut professeur de dessin à l'Athénée. Et Luc Beyer m'a raconté que des générations d'élèves l'ont appelé « grand-papa Chaudière » parce qu'il fumait constamment la pipe, comme je le fais moi-même. Et comme le firent sans doute mes ancêtres. Avec mon oncle, je visitais un jour la maison de mon grand-père, que je n'ai pas connu non plus. Mon oncle me conduisit dans le salon. Je vis, contre une fenêtre à croisillons, un fauteuil. Mon oncle me fit lever la tête au-dessus du fauteuil. Il y avait au plafond une grande auréole brune, et j'appris ceci. Mon grand-père avait parcouru le monde à la recherche de peau pour son industrie. Puis, l'âge venant, il avait décidé de ne plus bouger, mais littéralement de ne plus bouger. Et il passa tout le reste de sa vie assis dans son fauteuil, en faisant des ronds avec la fumée de pipe, regardant, à travers les vitres teintées, le jour naître et s'éteindre sur sa ville natale. À quoi s'occupait-il ? Il s'occupait à ralentir le temps. Il se tissait, pour son ultime voyage, une couverture d'éternité. Il me semble que cette passion du retirement, que ce désir de prendre des distances avec le monde, que le noble goût du retrait et du silence sont une composante de l'âme gantoise. Ainsi, Maeterlinck, dans son palais d'Orlamonde, a-t-il passé les dernières années de sa vie assis dans un fauteuil, un fusil sur les genoux, afin que personne n'y ait rien ne vienne le déranger de sa grande et unique occupation qui était d'être lui-même face à l'Éternel. C'est un comparable sentiment que j'éprouve quand je viens dans Bruges ou Gand. Il me semble que je dois m'arrêter là et ne plus bouger. Chateaubriand, venu rendre hommage à son roi pendant les 100 jours, écrit « Mon refuge était l'enclos du béguinage. Là, aucune disparate ne heurtait mes idées. » Mais c'est toute la Flandre qui met ce béguinage et qui me donne cette impression de refuge et d'unité retrouvée. Peut-être s'agit-il du père et du fils, enfin réunis. Moi-même, que la destinée a fait tout entier français, je revendique mes origines flamandes. C'est à mes origines que je dois un certain appétit de l'esthétique flamboyante, le goût du réalisme fantastique et l'énergie d'une race qui a élevé la fierté et la volonté au rang des vertus cardinales. C'est Verhaeren qui le dit, « J'appartiens à une race qui veut après avoir voulu. » Et Verhaeren dit encore, « Flandre tenace au cœur, Flandre des aïeux morts. » Merci à vous tous.
Il a écrit toujours à la machine. Moi, j'ai des souvenirs d'enfant bercés par le bruit de la machine. Et il écrivait dans sa maison à Ménil-le-Roi, à la campagne, et aussi à Trouville, qu'il aimait beaucoup. Il écrivait la nuit devant la mer, il adorait ça. C'est la maison qu'il a achetée grâce au Matin des Magiciens, qui d'ailleurs fête 50 ans cette année. Il se reprenait énormément, c'était douloureux pour lui d'écrire, il écrivait merveilleusement bien, mais il était très exigeant aussi. Il écrivait à la machine avec un double carbone, puisqu'il n'y avait pas de photocopieuse à l'époque, et il raturait énormément, il reprenait.
Louis Powels, extrait de son livre testament « Les dernières chaînes ». «
S'il y a un livre de moi que j'aimerais voir sauvé de l'oubli, où mon œuvre sombrera probablement sous peu, c'est « Saint quelqu'un ». Je l'ai rédigé à l'époque de la Libération. Inconnu des milieux d'édition, je ne songeais pas à le publier. Un soir, au cours d'une réunion de travail et culture, qui regroupait des créateurs de tous horizons en vue d'un effort culturel auprès des plus défavorisés, j'ai oublié deux chapitres sur une table. Paul Flamand, qui était en train de fonder les éditions du Seuil, les a fourrés dans sa serviette par mégarde. Il m'a écrit « C'est formidable! Avez-vous la suite? Je publie !» Telle a été mon entrée en littérature.
Il avait une puissance de travail énorme. Il pouvait travailler une nuit entière. Le week-end, il partait dans sa maison de Maison Lafitte, enfin à côté de Maison Lafitte, au Ménil-le-Roi. Et il écrivait le samedi et le dimanche. Et il envoyait son édito, son fameux édito, il l'envoyait le dimanche soir ou le lundi matin. Toute la semaine, il travaillait sur son journal. Et j'ai toujours vu énormément travailler, jusqu'à parfois en tomber malade. Il a beaucoup souffert quand il est rentré dans la phase Figaro Magazine parce qu'il s'apercevait qu'il ne pouvait plus écrire, plus vraiment. Et donc, il a souffert de ça. Je crois que ça l'a déchiré parce qu'en fait, c'est un écrivain et un poète. Et être un journaliste l'amusait comme témoin de son temps. Mais il aurait été plus heureux en étant Zola, je pense, qu'en se partageant de cette façon aussi manichéenne. Il a fait la revue Planète, les éditions Planète, qui restaient tout ça dans le même créneau. Il a plutôt changé de créneau quand il a fait le Figaro Magazine. D'ailleurs, il disait « J'ai beaucoup changé dans ma vie, mais j'étais toujours sur le même arbre, mais avec des branches différentes. » Il s'est converti. En fait, c'est un mystique. C'est quelqu'un qui avait été aussi bouddhiste, qui s'intéressait à la religion de toute façon, à la spiritualité de toute façon. Et donc, quand il a eu ce grave accident où il s'est fracturé le col du fémur au Mexique, en étant pour le Figaro, il a été comme on peut l'être dans ces cas-là, dans le cas d'un cancer ou d'un accident, totalement touché par la grâce et envie de discuter. Alors, pour lui, ça se situait à des niveaux passionnants parce qu'il parlait avec Lustiger, il parlait avec les grands religieux. Et puis, lorsqu'il était très malade, vers la fin de sa vie, moi, je lui dis que vous ne devriez pas prendre ça comme une épreuve, que le Seigneur vous envoie. Il m'a dit, le Seigneur m'a abandonné. Donc, il a été un peu moins religieux à la fin de sa vie. Moi, j'étais auprès de lui avec ma belle-mère. Il avait eu une attaque cérébrale, une première attaque cérébrale qui l'avait privé de la lecture et de l'écriture. C'est épouvantable parce que pour un homme qui toute sa vie avait lu et écrit, il ne pouvait ni lire ni écrire. C'est-à-dire qu'il ne pouvait plus dire que F-I-G-A-R-O faisait Figaro, par exemple. Et donc, il a eu une première attaque cérébrale. Il s'est rééduqué, une deuxième attaque cérébrale. Et la troisième a été fatale. Et moi, j'étais auprès de lui tout le temps. Je l'ai vu partir. C'était brutal. Il était généreux, il était bon. C'était rien de très gentil. Sous ses airs un peu durs, c'était quelqu'un d'extrêmement tendre et gentil et fragile et vulnérable.
Louis Powells, extrait de son livre testament, Les dernières chaînes.
À la porte du dernier étage de ma maison de Trouville, une plaque mentionne Louis Powells, poète. Cette enseigne est une initiative de ma femme. Je la conserve pour cette seule raison. Bergier racontait l'histoire d'une dame qui achète un timbre dans un bureau de tabac de luxe. « Enlevez-moi le prix, dit-elle, c'est pour un cadeau. » Le poète me fait penser à cette dame. Son verbe est un absurde cadeau dont il essaie de gratter le prix avec ses insomnies. Depuis des années, le poète vit en moi comme un double enfoui, sosie des profondeurs, inséparable et incompatible. Moi qui ai tant vécu dans l'action, avec tous les avantages de la puissance et de la fortune, je n'ai cessé de brimer le poète, sans qui je ne serais rien. C'était une manière de scier la branche à laquelle je devais ma sève. Et du haut de ma tour, j'entendais monter vers moi les sourdes invectives de ce jumeau que je laissais dépérir. À force de gagner du temps, l'homme d'action perd souvent l'essentiel. Savoir perdre du temps, pour le poète, c'est gagner de l'éternité. Comme disait Cocteau, les poèmes sont moins faits pour être lus que pour être là. Et la suprême noblesse du poète, c'est d'écrire alors que rien ne l'y oblige et que, dans la vie actuelle, tout l'en dissuade. C'est une voie que j'ai trop peu ou mal suivie. Mais j'ai souffert que même les plus proches ignorent le poète pour ne voir en moi que l'homme de réussite médiatique et sociale.
Les ouvrages de Louis Powell sont en majorité parus chez Gallimard et chez Albin Michel. Son journal « Un jour, je me souviendrai de tout » est paru aux éditions du Rocher. Son livre testament « Les dernières chaînes » existe en pocket sous le numéro 10493. Rappelons que son ouvrage, co-signé avec Jacques Bergier, « Le matin des magiciens », est paru chez Gallimard en 1960 pour la première édition. À l'occasion de ce 10e anniversaire, paraît un livre d'hommage à Jacques Bergier, rassemblé par Claudine Brelet, paru aux éditions L'Harmattan en 2010, sous le titre « Jacques Bergier, une légende, un mythe ». Louis Powell avait d'ailleurs dressé un portrait de Jacques Bergier intitulé « Blumrock l'admirable » ou « Le déjeuner du surhomme », disponible en folio chez Gallimard. Enfin, précisons simplement que Louis Powell a été élu à l'Académie des Beaux-Arts en 1985 dans la section des membres libres, au fauteuil précédemment occupé par Gaston Palevski, dont il avait, selon la tradition, prononcé l'éloge. Au cours de ce souvenir de famille que vous venez d'écouter, la lecture des textes de Louis Powell a été assurée par le comédien Michel Girard.